Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des Économistes, l'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Le thème de l'émission, d'aujourd'hui est « L'infortune du monde musulman est-elle inéluctable ?» Et pour en parler, j'aurai le bonheur d'être avec Fergan Aziari, qui nous vient avec un nouveau livre, quelques semaines, « L'islam contre la modernité » aux presses de la Cité. Livre passionnant, très réussi. Alors, Fergan Aziari, on ne le présente plus, mais je vais quand même le présenter. Et donc, essayiste, puisque c'est son deuxième essai. Il nous avait écrit récemment, en 2021, « Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée », pour lequel j'avais eu le bonheur de le recevoir déjà. Et donc essayiste et chroniqueur au Figaro Magazine et sur France Info TV. Vous avez reçu d'ailleurs pour ce précédent livre « Les écologistes contre la modernité, le procès Prométhée » le prix Turgot. Est-il judicieux de le rappeler? Vous êtes le suppléant du Libre Journal des Économistes, ministère que je crois vous avez exercé par trois fois. il faut dire que je ne suis pas souvent absent.
Ça veut dire que vous êtes en bonne santé.
Mais oui, voilà. Mais j'imagine que vous n'aurez plus l'occasion. Puisque vous êtes demandé absolument partout.
Jamais dire jamais,
d'accord, très bien, bon, parfait. Actualité libérale, l'école de la liberté, avenue MacMahon, qui aura lieu samedi 30 mai. Vous pouvez vous y inscrire à contact@ireferop.org, contact@ireferop, en un seul mot, IREF, Europe. Il y aura Emmanuel Cutile-Nirandina, qui est professeur de littérature italienne à l'université de Strasbourg, qui nous parlera de Benedetto Croce, et puis Une vie pour la Nouvelle Italie. Et puis, dans la deuxième partie de la matinée, Patrick de Casanov, docteur en médecine, essayiste, président du Cercle Frédéric Bastiat, qui était d'ailleurs mon invité il y a 4 semaines, qui nous parlera de la sécurité sociale pour rebâtir la sécu, laissez-nous faire. Son livre, ça c'est le samedi 30 mai, avenue MacMahon à Paris, et il faut s'inscrire obligatoirement par contact@ireferop.org. Voilà. Et puis on va aller très vite sur les actualités libérales, on va dire, les actualités générales, parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui avec Fergan Aziari sur notre thème du jour, l'infortune du monde musulman est-elle inéluctable ? Mais je ne peux pas ne pas parler des projets Notre-Dame. Ce pays est devenu totalement fou, quoi. C'était complètement dingue. Emmanuel Macron, alors je cite Emmanuel Macron, « Les choses avancent, mais pas assez vite, jamais assez vite. J'ai donc pris un engagement clair, accélérer une bonne fois pour toutes la réalisation de nos projets industriels sur l'ensemble du territoire. Nous avons montré au monde que nous étions capables de rebâtir Notre-Dame en 5 ans. C'est cet esprit que je veux retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous identifions 150 grands projets, 150 cathédrales industrielles partout en France, que nous allons faire avancer beaucoup plus rapidement. Cela représente 71 milliards d'euros d'investissement et plus de 32 000 emplois au service de notre souveraineté. Et cela s'accompagne de très nombreuses simplifications pour faire mieux et plus vite. Nous accélérons. » Voilà, c'est vraiment les bras nous en tombent. Comment est-il possible de... plus que jamais, ce pays n'a qu'un seul cerveau, finalement. Hein, c'est celui d'Emmanuel Macron. Et il y a 67 millions d'imbéciles qui sont obligés de subir l'arbitraire... ou les délires de l'administration, de souffrir de tous les problèmes, fiscaux, réglementaires, etc., etc., sauf les 150 projets que le président de la République décrète comme étant vraiment importants, parce qu'il est le seul à savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc, je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus, Fergan.
Si jamais il s'agit de simplifier l'environnement réglementaire, comme en tout cas M. Macron... le suggère, je pense qu'on ne peut qu'applaudir. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, la leçon de Notre-Dame est assez intéressante, puisque Notre-Dame est un chantier qui, faut-il le rappeler, a montré la capacité de l'administration à lâcher un petit peu du lest, dans la mesure où nous avons mis en œuvre un régime d'exception sur le plan juridique pour alléger tout un tas de procédures qui, autrement, auraient freiné et ralenti la reconstruction de la cathédrale. Donc, si jamais cette réussite inspire des idées la nécessité de libéraliser davantage l'économie pour la libérer de ses contraintes. Moi, j'applaudis. J'attends de voir. Donc,
oui, mais enfin, avant de juger, le problème, c'est de limiter ça à 150 projets.
Évidemment,
c'est-à-dire de considérer qu'il y a les projets du président qui sont importants, comme ça a toujours été le cas dans ce pays d'ailleurs.
Disons qu'il faudrait élargir cette logique-là et en effet ne pas sélectionner de manière discrétionnaire et arbitraire les projets qui mériteraient attention particulière de l'administration sur le plan de la libéralisation.
Voilà. Mais élargir cette logique-là, c'est ce qu'on appelle simplifier l'administration, et j'ai envie de dire, et pas besoin de ministère de la simplification pour ça, simplifier l'État, c'est la fonction numéro un de l'État normalement.
C'est un serpent de mer.
Ouais. L'État est là pour simplifier la vie des, est là pour simplifier la vie des Français. Voilà. Et deuxième actualité qui va nous amener tout de suite à notre sujet, c'est le maire de New York qui connaît une crise budgétaire après avoir chassé les riches hors de New York. Voilà, donc et qui se plaint effectivement, mais bon, ça c'est, il est normal qu'il subisse les conséquences, on va dire, de sa politique. Et donc c'est un petit peu ce qu'on va voir avec cette étude de l'islam dont vous parlez. C'est vraiment un livre très très stimulant. J'ai trouvé ça passionnant. Ça fourmille de sources d'abord. Il y a une centaine de pages à la fin avec les sources. C'est d'ailleurs assez intelligent de les avoir mis en fin d'ouvrage pour en fait faciliter la lecture. Mais c'est un ouvrage qui est très sourcé. Voilà, peut-être que les gens vous ont déjà entendu parler sur le sujet, puisque ça fait déjà quelques semaines qu'il est sorti. Vous avez entre autres débattu d'ailleurs avec Tarek Oubrou, le grand imam de Bordeaux, au Club Figaro Idée, organisé par Eugénie Bastier, et puis aussi sur l'émission réplique sur France Culture d'Alain Finkielkraut avec Khaled Bencher, voilà. Et c'était deux émissions absolument passionnantes et qu'on peut trouver en podcast d'ailleurs. Voilà, enfin qu'on peut retrouver
en émission, enregistré sur Internet, en bon français.
Sur Internet, voilà. Mais alors oui, ce qui nous ramène, enfin ce qui le lien que je fais avec la ville de New York, c'est que vous montrez à quel point les gens fuient les pays musulmans parce qu'il y a une misère dans ces pays qui est alors dont on découvre évidemment qu'elle est consubstantielle à l'islam, et puis en fait ils viennent dans nos pays qui sont plus riches. Le problème, c'est que comme il s'agit de la foi mahométane, c'est quelque chose qui est plus fort que simplement je dirais une option politique ou comme ça, ils viennent souvent accompagnés de leur foi. Et derrière, ça a plutôt un effet délétère et ça a plutôt un effet d'appauvrissement. Et donc, et peut-être que c'est l'outil le plus efficace de conquête de l'islam, finalement, c'est de faire fuir les ressortissants du monde musulman, la civilisation islamique, et derrière, d'aller dans des contrées, etc. Bon, évidemment, le monde ne s'enrichit pas à cette aune.
Alors, vous avez parlé de New York, je ne sais pas s'il faut imputer les déboires de New York à l'islam, puisque je pense qu'il s'agit plus du socialisme, en l'occurrence, puisque M. Bamdani se réclame aussi du socialisme et a tout de suite annoncé la couleur avec une politique de taxation assez ambitieuse, des contrôles de loyers, donc tout un arsenal de mesures dont on sait qu'elles ont pour effet d'abîmer l'économie. Donc je laisserai pour le coup l'islam de côté sur ce cas-là. En revanche, vous avez parfaitement raison de dire que aujourd'hui, et c'est d'ailleurs toute la thématique du livre que vous avez donc la gentillesse de présenter, ce livre part d'un constat très simple finalement et assez facile à partager, un constat que les musulmans formulent eux-mêmes, ils ne m'ont pas attendu pour se désoler de l'état lamentable de leur société respective. Aujourd'hui, on constate malheureusement que le monde musulman est en deçà de tous les standards, de toutes les normes que nous sommes en droit d'attendre des sociétés civilisées, quels que soient les indicateurs que l'on prend. Les indicateurs politiques, tout d'abord, le monde musulman est composé d'une quantité astronomique disproportionnée de régimes autoritaires et tyranniques où, par définition, la liberté, l'égalité relève de la science-fiction la plus totale. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de pays à majorité musulmane dans le monde, et le nombre de démocraties libérales en terre d'islam se compte sur les doigts d'une main atrophiée.
Alors est-ce que vous avez les noms de ces pays quand même, parce que du coup il y en a moins de 5 j'imagine.
Alors on peut peut-être mettre l'Albanie quand on prend le classement des pays musulmans les plus libéraux, mais l'Albanie est un cas qui est très qui est très singulier,
oui.
Puisque c'est un pays d'une part qui est sur le continent européen, donc qui bénéficie aussi de l'influence européenne, et c'est un pays qui est passé par une phase de communisme et d'athéisme d'État. Tout à fait. Et donc le culte musulman, comme toutes les religions locales, ont subi d'importantes répressions, ce qui a peut-être paradoxalement contribué à faire reculer les versions les plus littéralistes, les plus agressives de l'islam.
Et puis donner une soif de prospérité peut-être aussi à ce pays qui est entouré de l'Italie et de...
Peut-être, peut-être. Mais à part quelques pays, il est très difficile de lister des pays musulmans que l'on pourrait qualifier de démocratiques ou de libéraux. On a longtemps misé sur la Turquie, mais aujourd'hui, celle-ci connaît des reculs assez visibles en matière de droits de l'homme. Certains parlent de l'Indonésie comme un modèle de démocratie, mais là encore, l'Indonésie, c'est un pays dans lequel vous pouvez être fouetté sur la place publique dès lors que vous êtes accusé de fornication. Donc, on n'a pas beaucoup d'exemples en réalité de pays musulmans. Chiffre, là encore, pour l'attester, sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent cette ère culturelle qu'on appelle l'islam avec un I majuscule, seulement 3% d'entre eux vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne mondiale.
Est-ce qu'on parle des mêmes régimes, des trois mêmes régimes, non?
Des musulmans sur la planète entière, et donc quand on dit qu'il y a 3% de musulmans qui vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne mondiale, on inclut aussi les musulmans occidentaux, éventuellement ce régime comme l'Albanie. Donc en tout cas, une très faible part de musulmans qui vivent dans des pays que l'on peut qualifier de libres ou plus libres que la moyenne, puisque toute évaluation politique est nécessairement comparative au regard d'une norme et d'un standard.
Évidemment, bien sûr. De la même manière, que les pays musulmans contribuent à plomber un peu.
Tout à fait. De la même manière, la quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements de l'ONU, de l'OCDE, du Forum économique mondial, qui s'intéressent à la condition féminine et aux droits des femmes. L'essentiel des minorités les plus discriminées, les plus persécutées dans le monde, plus de 60%, vivent en terre d'islam. Et encore, ce chiffre est probablement sous-évalué parce qu'il n'inclut pas les athées, les libres penseurs, les incroyants. Il faut rappeler que l'islam est aujourd'hui la seule religion, la seule, hein, il n'y en a pas d'autre, qui condamne à mort ses anciens adeptes. Hein. Il y a une petite dizaine de pays musulmans où l'apostasie, le fait de renoncer à sa foi, est officiellement passible de peine de mort. Donc dans le pire des cas, vous êtes tué. Dans le meilleur des cas, vous êtes ostracisé. Et entre ces deux sanctions et toute une gamme de mesures plus ou moins répressives qui va de l'amende à la peine de prison. Et même dans les pays dans lesquels la peine de mort n'est pas officiellement applicable, vous n'êtes jamais à l'abri du risque d'être assassiné par un fanatique sorti de nulle part. Risque d'ailleurs qui s'est étendu aux pays occidentaux. Hein, je fais référence à l'affaire Salman Rushdie. Donc effectivement, puisque nous avons importé cette religion sur le sol européen, nous avons aussi importé les fanatiques qui s'en réclament et qui appliquent littéralement les commandements qui invitent à tuer les apostats, les hérétiques. Là encore, si l'on prend quelques indicateurs, les sociétés musulmanes sont surreprésentées dans les conflits armés. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est essentiellement composé de groupes d'obédience musulmane. Et donc, quand on prend tout un tas d'indicateurs, en effet, on se rend compte que le monde musulman entretient avec la liberté, la violence, l'égalité, un rapport tout à fait problématique. Et on peut aussi en dire de même des réalisations économiques, culturelles, scientifiques du monde musulman. Là encore, quelques chiffres, si vous me le permettez. Le monde musulman, on l'a dit, c'est un quart de la population mondiale. C'est 1% de prix Nobel, toutes catégories confondues. C'est 0,1% des découvertes scientifiques originales liées à la recherche, si j'en crois les chiffres de la Banque islamique de développement basée en Arabie Saoudite, peu suspecte, je crois,
de truquer les chiffres en
islamophobie. Là encore, quand on regarde la production de brevets par million d'habitants, la production de livres par million d'habitants, le nombre de traductions de livres étrangers, bref, sur tout un tas d'indicateurs, le monde musulman est très en deçà, là encore, des standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés normales.
Tout à fait. Alors, vous avez une très jolie, enfin, le livre est très joliment écrit, très, très agréable à lire. Et alors, vous dites au début de ce livre, l'auteur de ces lignes ne peut se résoudre à ce que le monde d'où viennent ses ancêtres reste englué dans la déchéance la plus complète. Aussi en s'en sera-t-il le jour où l'Orient déjouera ce pronostic, où le Pakistan disputera au Canada le titre de champion des droits des minorités, où les éditorialistes français fustigeront les excès du féminisme en Afghanistan, où l'Algérie sera submergée par les demandes de visa, où le Soudan deviendra le refuge des arts et des lettres, où la Suisse s'insurgera contre l'exil de ses talents et de ses capitaux vers la Mauritanie, où Mayotte demandera son rattachement aux Comores pour profiter de leur opulence, où l'Iran sermonnera l'Amérique sur sa pudibonderie à l'endroit des blasphémateurs, où le Maghreb narguera Israël en se vantant d'héberger 100 fois plus de juifs prospères que l'État hébreu ne compte de citoyens arabes en son sein. Mais il se scandalise de voir que ce jour est loin, que les conditions pour qu'il advienne ne sont pas réunies et que les superstitions sanguinaires obtiennent le suffrage des musulmans dans les rares moments où ils peuvent se rendre aux urnes. Voilà. Ça guide un petit peu l'esprit de l'ouvrage, disons. C'est très intéressant de se poser effectivement cette question. Pourquoi cette ère musulmane? Alors, le thème de l'émission, c'est l'infortune du monde musulman est-elle inéluctable? En venant ici, là, je me suis dit, oui, mais en fait, l'infortune, on pourrait dire qu'il y a aussi une fortune des pays musulmans, puisque c'est les néoconservateurs américains qui j'avais entendu un néoconservateur américain se plaindre du fait que Dieu, peut-être par manque de sagesse, je ne sais pas comment est-ce qu'il présentait exactement les choses, avait mis tout le pétrole dans la péninsule arabique et dans les pays musulmans.
Je ne sais pas si attribuer à Dieu, si tant est qu'il existe, à ce choix.
De toute façon, nous libéraux savons que c'est pas forcément un atout pour le développement que d'avoir des richesses minières, pétrolières.
Regardez le Venezuela, assis sur l'une des plus vastes réserves de pétrole de la planète et qui est aujourd'hui dans la pénurie la plus totale. Donc, évidemment que les ressources naturelles peuvent être un avantage, mais ce qui compte en effet, c'est la capacité à les faire fructifier de manière la plus productive possible. Et ça dépend avant toute chose de la qualité des institutions, des incitations qui sont des institutions qui encouragent les individus à des comportements productifs. Et donc toute la question est de savoir en effet pourquoi le monde musulman peine à faire émerger ce genre d'institution. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que cette incapacité des sociétés musulmanes à s'insérer dans le cours de la présente civilisation est d'autant plus consternante que l'islam est né avec une cuillère d'argent dans la bouche.
Oui, bien sûr, oui, vous le dites très bien. D'ailleurs, c'est très intéressant cette partie de vous dites.
Mais je vous remercie.
Allez-y peut-être. Peut-être pour présenter juste la chose. On connaît tous l'antiquité égyptienne, Palmyre, Carthage, etc. Enfin bref, et c'est vrai que le monde musulman a tout fait pour faire oublier finalement toutes les richesses dont il était l'héritier. Et alors c'est ça que vous montrez sur de très nombreuses pages, je veux dire, c'est très intéressant. Et il y a un effet de nombre qui est passionnant, parce que il y a des choses dont on se souvient, puis il y a aussi des choses que, pour ma part, j'ai découvert. Je me suis dit, c'est vrai que comme vous dites, qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ouais,
tout à fait, c'est un aspect important de l'ouvrage et de la démonstration. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte au fil de mon enquête que... La tradition musulmane, l'historiographie musulmane, ou comme moi je l'appelle la propagande musulmane, a tout fait pour dévaloriser l'étage des sociétés pré-islamiques.
C'est ça, oui.
C'est-à-dire qu'il y a une volonté de réécrire complètement l'histoire de la région pour mieux insister sur les prétendus apports de l'islam à la civilisation avec un grand C, et ceci conformément à une logique coloniale assez banale. Hein. Donc les musulmans n'ont été ni les premiers ni les derniers mettre en œuvre ce genre de procédé. En l'occurrence, ce procédé était parfaitement mensonger et a eu un effet totalement dévastateur dans la région parce que cette réécriture de l'histoire a cultivé chez les musulmans un profond mépris, une profonde ignorance de leur histoire, de l'histoire de leurs ancêtres, avant l'arrivée de l'islam, ce qui les a finalement persuadés que la religion de Mahomet était la meilleure chose qui pouvait arriver à la région. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que cette réécriture de l'histoire, elle s'est aussi diffusée dans l'imaginaire et la littérature occidentale. Je prends par exemple, je cite le cas de Napoléon, qui avait une grande admiration pour la figure politique et conquérante de Mahomet, qui créditait Mahomet d'avoir civilisé des Arabes qui étaient supposément barbares, idolâtres, polythéistes, alors même que l'on sait aujourd'hui, grâce au progrès de l'histoire de l'archéologie, que l'Arabie pré-islamique, avant la prédication de Mahomet, n'était nullement polythéiste, que le polythéisme avait quasiment disparu au 5e siècle, pardon, et que l'Arabie était en grande partie acquise au christianisme avec des poches de judaïsme, ce qui explique du reste la présence dans le Coran de nombreuses références bibliques et néo-testamentaires. Et donc, quand on se souvient en effet qu'avant l'islam, le monde arabe pouvait donner des empereurs et des impératrices à Rome, des professeurs à Athènes, des souveraines catholiques.
Des papes, j'ai appris.
Des papes, alors pour les, c'est plutôt pour les berbères, les papes, je ne sais pas s'il y a eu des papes arabes, je ne suis pas certain. Mais donc des souveraines catholiques qui secouraient Constantinople face aux Goths qui n'étaient que de vulgaires barbares païens. Quand on se souvient que l'Afrique du Nord, le monde berbère, avant l'islam, donnait à la littérature latine des romanciers talentueux, des théologiens à la chrétienté. Saint Augustin, qui a longtemps été le grand maître à penser de l'Occident chrétien, on le sait, est en partie d'origine berbère, donc des papes à la chrétienté, pour ce qui est du cas aussi des berbères. Quand on se souvient que en Égypte, jadis, on préférait lire l'Iliade que le Coran, qu'en Syrie, il fut un temps où préférait la lecture d'Épicure à celle des traditions de Mahomet. Quand on se souvient qu'en Afghanistan, des siècles avant l'islam, l'Afghanistan produisait de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes. Et moi, j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à aller au musée Guimet des arts asiatiques.
À Paris, pour les Parisiens.
À Paris, tout à fait, pour les Parisiens, mais aussi pour ceux qui voudraient voyager à Paris. Et d'aller donc dans ces salles consacrées à l'art du Gandhara. Et je les mets au défi de ressortir de ces salles en finalement disant que l'islam a été une bonne chose pour la région. Il me semble que cette position est intenable quand nous avons en tête ces réalisations pré-islamiques que donc les traditions musulmanes, que les historiens musulmans ont tout fait pour effacer. Et donc quand en effet on a en tête ces réalisations, on est en droit de contester le mensonge d'un islam civilisateur, et on est en droit avec Claude Lévi-Strauss de penser que l'islam a coupé en deux un monde plus civilisé. Et moi, mon vœu le plus cher serait que les musulmans méditent finalement ce passé pré-islamique, se demandent sur un ton nostalgique ce que serait leur existence aujourd'hui si l'Orient, l'Afrique du Nord étaient restés dans le giron gréco-romain, perse, syriaque, bouddhiste, araméen ou que sais-je. Ma conviction, c'est qu'ils seront sauvés le jour où ils éprouveront une petite nostalgie et s'adonneront à cette uchronie salvatrice, donc qui consiste à se demander où ils en seraient aujourd'hui si l'islam avait échoué.
Fort bien. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule « Le Libre Journal des économistes ». Je suis avec Fergan Aziari et nous parlons de son livre « L'islam contre la modernité » aux Presses de la Cité. Et donc, une fois que vous avez brossé un petit peu ce constat et que vous avez aidé les gens à prendre conscience de cette histoire très riche, mais d'ailleurs, enfin, c'est très intéressant, peut-être que je passe un peu du coq à l'âne, mais de montrer que même concernant l'islam, les musulmans ne sont pas encouragés à faire une étude historico-critique, on va dire, de leur propre religion. Et j'avais entendu il y a quelques années que je ne sais plus, la maison de Khadija ou de Mahomet ou je ne sais plus quoi avait été défoncée, on va dire, en Arabie Saoudite, avait été défoncée juste parce qu'ils allaient construire un supermarché, que tout le monde se moquait totalement de cette archéologie, enfin, disons, l'islam étant incréé, mais ayant toujours existé finalement, les musulmans ne sont même pas curieux finalement des sources de l'islam.
Disons qu'aujourd'hui, l'analyse historico-critique en effet de l'islam est un quasi-monopole occidental. pour une raison que l'on peut en partie comprendre, c'est-à-dire que dès lors que l'on adopte une lecture historico-critique des sources musulmanes, on risque très fortement d'ébranler la crédibilité de ces sources. Donc il n'est pas certain que la religion musulmane survivrait à une analyse scientifique de ces sources, ce qui explique en partie pourquoi le monde musulman n'a jamais, comment dire, enfanté une tradition orientaliste aussi prestigieuse que le monde occidental. Il n'y a jamais eu en terre d'islam l'équivalent d'un Spinoza appliqué, enfin en tout cas la méthode que Spinoza appliquait à la Bible. Il n'y a jamais eu l'islam n'a jamais eu son moment Ernest Renan, n'a jamais eu son moment historico-critique. Récemment a été donc publié un ouvrage très important en France, le Mahomet des historiens, donc qui a été coordonné et dirigé par John Tolan et Mohamed Ali Amir Mouazi, qui sont deux orientalistes, deux historiens reconnus du monde musulman. Et ils ont récemment donné un entretien à La Croix en expliquant qu'ils avaient été invités par diverses organisations confessionnelles, chrétiennes, juives ou autres, pour exposer leurs travaux, mais qu'à une exception près, ils n'avaient jamais été invités par la moindre organisation, association musulmane ou la moindre mosquée. Le seul établissement qui est donc jugé utile de les inviter à présenter leurs travaux est la Grande Mosquée de Paris. En revanche, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'une fois, la conférence publiée sur le site internet de la Grande Mosquée de Paris, cette conférence a été supprimée à la demande donc, des fidèles, parce que précisément, toute tentative d'historiciser véritablement l'islam et
blasphématoire
et surtout, et ce qui en dit long d'ailleurs sur le peu de confiance finalement la tradition musulmane a à l'égard de sa propre religion, parce qu'après tout, si on est convaincu d'être dépositaire de la vérité, on n'a pas à craindre une telle entreprise historique. Au contraire, on ne peut que s'y montrer enthousiaste, parce que cette approche historique viendrait corroborer les récits de la tradition dont on se prévaut. Or là, ce n'est pas le cas. Il y a une véritable allergie du monde musulman à une étude historique, ainsi que le déplorait par exemple l'historienne Jacqueline Chabi. Et c'est la raison pour laquelle moi j'insiste pour le fait que il faut peut-être insister sur cette approche-là si l'on veut déconstruire l'islam, pas pour le plaisir encore une fois d'humilier telle ou telle communauté, ce n'est pas le but, mais encore une fois parce que les musulmans, ça c'est une phrase que disait Ernest Renan, et j'y crois profondément, sont les premières victimes de l'islam, et les émanciper de leur religion est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Et de même, il y a un paradoxe que les musulmans doivent, selon moi, méditer, c'est que c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues, jouissent de la condition la moins désagréable, ce qui signifie en réalité que l'islamisation de nos sociétés n'est dans l'intérêt de personne, fondamentalement, ni dans l'intérêt d'une droite qui est à tort ou à raison attachée à une certaine culture chrétienne, ni dans l'intérêt d'une gauche progressiste ou qui se prétend progressiste, parce qu'il suffit de regarder le monde musulman 5 minutes pour se persuader que la cohabitation entre Mahomet et Simone de Beauvoir est un petit peu compliquée, ni dans l'intérêt des libéraux, parce que là encore, Tocqueville et Mahomet, c'est une cohabitation qui est tout aussi précaire que Mahomet et Simone de Beauvoir, ni dans l'intérêt des musulmans eux-mêmes, puisque l'islamisation de nos sociétés reviendrait à fragiliser et à terme détruire les institutions dont les musulmans eux-mêmes bénéficient, ainsi évidemment que leurs concitoyens non musulmans.
Mais en sont-ils toujours conscients?
Non,
c'est le problème.
C'est le grand paradoxe.
C'est là qu'il faut les alerter.
D'essayer de les convaincre de ce paradoxe, en tout cas, et de leur faire remarquer, et de les pousser à se questionner sur le sens de leur présence en Occident. Pourquoi sont-ils ici? Et moi, c'est en partie par ce biais-là que je suis venu à ce sujet, puisque je suis issu d'une famille d'origine comorienne et de culture musulmane. Alors, je précise que je ne dis pas ça pour m'octroyer un argument d'autorité. On peut être originaire, on peut être originaire d'une culture et en dire n'importe quoi. Oui. Mais en l'occurrence,
ça n'est pas votre.
J'espère. En tout cas, mais en l'occurrence, je pense que lorsqu'on est un descendant de l'immigration musulmane et postcoloniale, on est nécessairement, un moment ou un autre, amené à s'interroger sur les dysfonctionnements de nos sociétés d'origine qui ont conduit nos ancêtres à l'exil et qui ont conduit nos parents à s'établir parfois à plusieurs milliers de kilomètres du lieu de leur naissance pour profiter des agréments d'une civilisation bien plus raffinée, bien plus respectueuse des droits humains, une civilisation capable de bâtir des richesses matérielles dont on profite in fine. Et le drame, selon moi, en effet, c'est que beaucoup trop de musulmans, et j'ai même envie de dire la quasi-totalité des musulmans, parce qu'autrement ils ne le seraient pas, peinent à tirer les bonnes conclusions de leur présence en France et en Occident, sont tentés de blâmer leur société d'accueil pour leur présence ici, parce que malgré tout, il y a une profonde méconnaissance des dynamiques interne et endogène au monde islamique.
Page 220, vous dites d'ailleurs, dans les pays où ils sont minoritaires, les musulmans sont obsédés par les droits des minorités. Dans les pays où ils sont majoritaires, les minorités n'ont plus aucun droit. D'ailleurs, c'est de Kamel Daoud. Enfin, vous citez Kamel Daoud. Et c'est une phrase qui est très, enfin, très pertinente. En effet. Alors, vous dites qu'il n'est pas question d'humilier telle ou telle communauté, bien, d'autant moins précisément que vous montrez que tout ce monde sud de la Méditerranée, de l'est de la Méditerranée, disons, a été particulièrement prospère, riche, cultivé, lettré. Voilà.
Tout à fait. Ce n'est pas une question ethnique, ce n'est pas une question raciale.
Voilà,
oui, bien sûr, oui. Encore une fois, il n'y a aucune raison de considérer que l'islam serait la quintessence de l'identité arabe, berbère, africaine, turque ou persane ou que sais-je. Les Arabes n'ont pas toujours été musulmans. Ils ont été païens, ils ont été juifs, ils ont été zoroastriens, ils ont été chrétiens. Il y a des Arabes athées.
Le christianisme est né au Moyen-Orient.
C'était une religion
du Moyen-Orient.
Tout à fait. Et l'Arabie était christianisée bien avant certains pays européens, avant de tourner le dos, hélas, à cet héritage pour embrasser une superstition bien plus arriéré et illibéral. Il en va de même des Berbères, il en va de même des Turcs. Les Turcs ont côtoyé aussi le christianisme. Certains peuples turcs ont été convertis au bouddhisme dans leur histoire. Les Persans, j'en parle même pas. Donc il n'y a pas de raison particulière donc d'ethniciser la question islamique. C'est une question anthropologique et civilisationnelle avant toute chose. Et donc si vous voulez, il n'y a pas de fatalité biologique.
C'est ça, on est bien d'accord, effectivement, sur lequel j'insiste, il n'existe pas.
Et c'est en cela d'ailleurs que la critique de l'islam ne peut être assimilée à du racisme, contrairement à ce que font certains courants aux islamistes qui jouent volontairement cette confusion entre religion et ethnie. Entre religion et race, il n'existe pas de gène coranique, il n'existe pas de chromosome mahométan, personne ne naît avec la nécessité et l'obligation d'adhérer à une superstition qui voue un culte de la personnalité à un caravanier esclavagiste du 7e siècle qui supervise des séances de torture et qui se croit mandaté par un être invisible entre deux hallucinations. Donc personne n'est condamné à embrasser une telle superstition. Libre à chacun de refermer le Coran et de s'en aller. Et moi, je dis souvent qu'un musulman, c'est quelqu'un qui a éventuellement lu le Coran ou qui le révère. Un non-musulman, c'est quelqu'un qui l'a compris.
Oui. Toute religion peut être assimilée à une superstition. C'est-à-dire, à un moment ou un autre, dans une religion, il y a toujours un moment où on croit au grand monstre des neiges ou au six chardeurs de Cassiopée, jusqu'à 6 étoiles dans Cassiopée, invisible à l'œil, en tout cas, dans Cassiopée. Donc, il y a toujours quelque chose. Sinon, il n'y a pas de foi. Je n'ai pas besoin d'avoir foi en cette table ou en ce stylo. Je précise qu'il y a une table et un stylo sous ma main.
Une connotation péjorative. Moi, pour ma part, je ne suis pas croyant, donc je ne révère aucune religion en particulier. En revanche, je pense qu'il est quand même important de préciser que toutes les fables ne se valent pas.
Il y a de belles histoires,
et il y a des histoires un peu moins belles.
Voilà, tout à fait. Mais il y a quand même quelque chose qui saute un peu aux yeux, vais-je dire, c'est que la liberté religieuse et la liberté économique, les libertés, droit d'expression, etc., la liberté de la presse, vont toujours de pair. C'est-à-dire, c'est toujours dans les pays... Alors, je dis surtout pas que les pays musulmans... une liberté religieuse dans les pays musulmans, ça supposerait précisément le droit d'apostasie, le droit d'avoir de multiples religions, disons, au même endroit. Mais on peut remarquer quand même que... la coïncidence entre les deux est absolue, c'est-à-dire que c'est toujours dans les pays où il y a une liberté religieuse, précisément parce que rien ne rend plus fou un bureaucrate, technocrate, étatiste, socialiste, rationaliste, athée, que le fait que des gens puissent croire à la divinité de Jésus ou aux prières zoroastriennes, etc. etc. Donc je crois que c'est ça qui fait que c'est tellement extrême, finalement, la foi religieuse est toujours... forcément, pour être une foi, il faut qu'elle soit à un moment ou à un autre, qu'elle exige un acte de foi, et donc c'est intéressant de se dire que la coïncidence est parfaite, et effectivement, c'est dans, je sais pas quoi, aux Pays-Bas qui acceptaient, les catholiques, évidemment, peut-être pas avec les normes d'aujourd'hui, disons, les catholiques, les protestants, ou les États-Unis. Les États-Unis se sont créés sur cette liberté religieuse, finalement, où des presbytériens, des pentecôtistes, des adventistes, des baptistes, des anabaptistes, des évangélistes, etc. Enfin, tout le monde s'est retrouvé là-bas, précisément pour pouvoir exercer librement son culte. Donc, je pense pas que... Enfin, peut-être qu'on peut faire le procès de la religion et le procès de certaines religions, bien sûr. Mais d'ailleurs, on peut voir que même en Suisse ou aux États-Unis, même l'église de Scientologie, qui est une secte, en tout cas au sens où on l'entend en France, est une secte d'ailleurs peut-être là-bas aussi, enfin sans doute. La seule chose, c'est que les Suisses ou les Américains appliquent un droit strict par rapport à ça, et tant que l'église de Scientologie, par exemple, respecte la loi, ils disent ok, c'est une religion, si vous considérez que ça, c'est pas à nous de dire ce qui est religion et ce qui n'est pas religion, etc. Donc allez-y librement, et je crois que c'est intéressant de penser quand même cette coïncidence absolue entre liberté religieuse et liberté et toutes les autres libertés, disons.
Oui, effet un lien très fort entre liberté de conscience et liberté individuelle tout court. Voilà. Il faut rappeler que l'émergence de la tradition libérale, d'ailleurs, est intimement liée à la critique de ce qu'on appelait naguère le théologico-politique, c'est-à-dire la prétention d'un État à incarner la vérité, la seule vérité théologique, et sa tentation de l'imposer par la coercition à l'ensemble de ses concitoyens. Et donc, toute la question est de savoir pourquoi certaines aires culturelles ont eu plus de mal que d'autres à faire émerger cette liberté de conscience, cette liberté individuelle. Non pas que l'islam aurait le monopole historique de l'oppression et de la violence, parce que chaque fois que je parle des dysfonctionnements du monde musulman, il y a toujours quelqu'un qui lève le doigt et qui me dit oui, mais l'inquisition, oui, mais ceci, oui, mais cela. Moi, je ne dis pas que l'islam aurait historiquement le monopole de la violence, ce serait évidemment absurde. La violence, malheureusement, est constitutive de l'histoire de l'humanité, et donc aucune culture, aucune religion, aucune civilisation ne peut se targuer d'avoir été complètement affranchie de la violence, du fanatisme et de l'oppression. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, et n'en déplaise aux rejetons de Rousseau, nous ne sommes pas des demi-dieux bénévoles que la civilisation aurait ensuite corrompu. Nous sommes le fruit d'un processus biologique complexe qui nous a, pour le meilleur et pour le pire, tous conféré une certaine disponibilité à la violence. Et donc ce n'est qu'ensuite qu'émerge éventuellement ce que le sociologue Norbert Elias a très justement baptisé le processus de civilisation. C'est-à-dire le processus au cours duquel on apprend à domestiquer nos passions, nos pulsions, et à adhérer à des institutions dont la fonction est de pacifier nos existences individuelles et collectives. Et donc toute la question que pose ce livre, c'est pourquoi certaines aires culturelles ont en effet plus de mal que d'autres à embrasser ce processus civilisateur. Et une fois qu'on pose cette question, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le rôle des systèmes de valeurs, sur le rôle des systèmes de représentation, des systèmes de croyances collectives. Et ce que je trouve assez curieux, c'est que nous vivons à une époque qui est saturée d'injonction à la déconstruction de nos préjugés. Alors on nous dit que pour faire diminuer les violences conjugales, il faut réformer la grammaire et l'orthographe. Pourquoi pas.
Je n'y crois pas beaucoup, mais bon. Oui.
Pourquoi pas. On nous dit que pour lutter contre le racisme, il faut réécrire les titres des romans d'Agatha Christie. Bon, on nous dit même que pour améliorer notre relation avec le continent africain, il faut revoir nos planisphères et faire en sorte que le continent africain soit un peu plus agrandi parce qu'il est apparemment trop petit
à la rapetisse, mais enfin, il y a des maps mondes un peu partout qui permettent, des globes terrestres qui permettent de se rendre compte de la taille réelle.
Et donc, on est saturé d'injonctions à la déconstruction de nos préjugés dans une multitude de domaines. En revanche, il est assez étonnant que personne ne veuille véritablement, en tout cas, interroger le rôle d'une croyance, d'un imaginaire hérité du 7e siècle qui voue un culte de la personnalité à un égorgeur qui se croit mandaté par Dieu. Il m'intéresserait de comprendre le rôle de cette variable dans la difficulté de certaines sociétés à faire reculer la violence. Non pas que l'islam serait la cause de tous les maux du monde musulman, dans la vie rien n'est monocausal, mais c'est une variable parmi d'autres, une variable qui, me semble-t-il, ne joue pas en faveur du bien. Si vous me permettez cette comparaison avec le communisme, par exemple, bon, sans doute les dysfonctionnements des sociétés communistes n'étaient-ils pas tous imputables au communisme, mais une fois la variable communiste neutralisé, il me semble qu'on a un tout petit peu amélioré le sort de ces sociétés. J'applique à l'islam le même raisonnement et je soutiens, sans prendre beaucoup de risques, je crois, que le monde serait en meilleur état, peut-être pas complètement pacifié, mais en tout cas en meilleur état, si la variable islamique disparaissait de l'équation.
L'égalité homme-femme, d'ailleurs, a été favorisée par le communisme en Russie, où vraiment le cerf n'était rien, et la femme du cerf, je dirais, était l'esclave de son mari, et ça a contribué sans doute d'ailleurs au succès du communisme en Russie, puisque les femmes ont eu le droit d'être exécutées exactement au même titre, au même titre que les envoyées au goulag.
Il y avait peut-être d'autres manières un peu plus civilisées de promouvoir l'égalité
homme-femme,
sans passer par le communisme.
Alors ensuite, dans votre ouvrage, alors je rappelle que nous sommes à l'écoute de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, que l'émission s'intitule Libre Journal des économistes, que mon invité est Fergan Aziari, et que nous parlons de son livre L'Islam contre la modernité, le thème de l'émission d'aujourd'hui étant « L'infortune du monde musulman est-elle inéluctable ?» Je vais vous quitter quelques instants d'ailleurs pour un bobino et je vous retrouve immédiatement en studio.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors, je suis avec Fergan Aziari, donc, et le livre dont nous parlons est son livre « L'islam contre la modernité ». Donc, après avoir parlé du fait que l'islam n'avait pas civilisé un désert, vous parlez de... Vous questionnez, on va dire, la notion d'islam des Lumières. Alors, dites-nous peut-être quelques mots là-dessus, ce que vous en pensez.
Tout à fait. Alors, l'islam des Lumières est une notion qui a été inventée par l'anthropologue Malek Shebel, qui était un programme plus qu'un constat, puisqu'il y avait donc cette ambition tout à fait louable de réformer, de moderniser l'islam afin que cette religion s'acculture aux standards démocratiques modernes. Je suis, quant à moi, sceptique quant à la probabilité que ce projet réussisse. Non pas que je ne nie l'existence de réformateurs en terre d'islam. Il faut rappeler qu'il existe en terre d'islam des auteurs, des militants courageux qui tentent d'adapter la lecture de leur religion aux exigences de la modernité. Je cite par exemple dans mon livre Feu Abdelwahab Medeb ou le Soudanais Mohamed Mahmoud Taha qui a été pendu à Khartoum dans les années 80 parce qu'il militait contre les conceptions les plus rigoristes de la charia. Et donc il faut saluer en effet ces réformateurs qui prennent un risque immense, qui prennent le risque d'être désignés comme des hérétiques et des apostats, avec les conséquences parfois mortelles que l'on sait. Simplement, il est vrai que je suis sceptique quant à la capacité de cette entreprise à réussir, quant à l'efficacité politique d'une réforme de l'islam, parce que selon moi, les sources musulmanes étant ce qu'elles sont, compte tenu du statut que ces sources revendiquent et compte tenu de leur contenu, la volonté de civiliser l'islam de l'intérieur à partir des sources musulmanes m'apparaît être une tâche comparable à celle des alchimistes qui voulaient transformer le plomb en or.
Et donc, c'est quasiment impossible alors parce que
c'est, disons, très difficile.
Il faut l'énergie d'une centrale nucléaire pendant quelques secondes pour réussir à transformer un atome de plomb en atome d'or.
Donc, c'est difficile parce que les aussi longtemps que nous nous acharnerons à conférer à l'islam la moindre légitimité, la moindre validité à la fois morale et épistémique, nous donnerons toujours des munitions, à la fois au sens propre et au sens figuré, aux despotes, aux tyrans, aux esclavagistes, qui pourront toujours se prévaloir, sinon d'être, du moins d'être les plus conformes à l'orthodoxie, sinon d'être fidèle à celle-ci. Quand, par exemple, Daesh met en œuvre une industrie de l'esclavage sophistiqué, normé, entre guillemets, sophistiqué avec tous les guillemets,
évidemment.
Quelque chose de très organisé, je voulais dire.
Bien sûr, oui.
Daesh applique les traditions islamiques à la perfection. Il n'y a pas de dévoiement de l'islam. Il n'y a qu'une fidèle application. Et donc, ce qu'on appelle l'islamisme, ce qu'on appelle l'islam radical, n'est en réalité qu'une application tout à fait conforme à l'orthodoxie de 1000 ans de jurisprudence islamique. Ce que nos dirigeants, évidemment, ne disent jamais parce que ce n'est pas politiquement correct de le dire. Et par ailleurs, je pense que la notion d'islam des Lumières revient à faire beaucoup trop de concessions à la superstition de manière générale. C'est prendre le risque de nous enfermer dans des querelles pseudo-théologiques absurdes qui détournent les musulmans d'une vérité historique et scientifique parfaitement accessible et entendable. Cette vérité, quelle est-elle ? Le Coran n'est pas un texte divin. Point barre. Le Coran est une imposture, le Coran est un mensonge, le Coran est un texte de l'Antiquité tardive qui recycle des traditions juives, chrétiennes, des éléments issus d'évangiles apocryphes, des traditions de la Perse, zoroastrienne, on sait que les 5 prières par jour viennent du zoroastrisme, des traditions byzantines. Et donc, plutôt que de nous engager dans des querelles théologiques absurdes qui transforment nos sociétés en asile à ciel ouvert, je pense que la raison et la vérité exige tout simplement d'exposer les musulmans à un discours tout à fait scientifique quant à la nature même de leur religion, quant au processus historique qui a abouti à la canonisation des textes religieux et qui vont en effet à rebours du récit que nous sert la tradition musulmane, Par exemple, on sait que le Coran est un texte qui va se figer autour du Xe siècle,
oui.
Donc bien après la date, en tout cas, avancée par la tradition musulmane. On sait que la biographie du prophète, entre guillemets, enfin du prétendu prophète, n'a pas beaucoup de fiabilité historique parce que les récits les plus tardifs relatifs à la vie de Mahomet nous sont parvenus, en tout cas, ont été élaborés plus de 150 ans après les événements que ces précis... ces récits prétendent raconter.
Oui.
Là encore, je pense que l'approche scientifique se suffit à elle-même
pour
démonter la religion musulmane sans s'engager dans un sujet de réforme qui relève en réalité d'une chimère et qui nous fait perdre un temps précieux. Parce que qu'on discute de réforme, eh bien, on laisse l'islam gagner des parts de marché en augmentant donc le vivier de fanatiques prêts à subvertir notre civilisation.
On pourrait vous répondre la même chose sur le christianisme, et finalement le christianisme qui tolère, et de plus en plus évidemment, la critique, cette critique n'a pas réussi à entamer la foi. D'ailleurs, Benoît XVI, lorsqu'il était encore cardinal Ratzinger au service de Saint-Jean-Paul II, m'a dit par exemple que les théories de l'évolution sont plus qu'une hypothèse, hein, donc ça veut dire dans le langage de l'Église, ça veut dire que qu'ils ne prennent pas parti entre je ne sais pas quoi, Darwin, Lamarck, machin, etc., mais qu'en tout cas ils savent que il y a eu des dinosaures et ils ont réaffirmé évidemment que toute vie humaine était voulue par Dieu, évidemment, et je crois que ça n'a pas d'effet sur la foi des chrétiens, enfin c'est pas ça me semble, je ne crois pas que ni les chrétiens, ni les musulmans, ni personne ne puissent, face à une équation, certaines personnes, oui, bien sûr, ça peut avoir un effet marginal, mais je ne crois pas que quiconque puisse se dire « Ah oui, bon sang, c'est bien sûr, vous m'avez convaincu, je me suis trompé, etc., mes ancêtres se sont trompés, tout... »
Et pourquoi pas ?
Non, mais je ne dis surtout pas que ça n'arrivera, enfin, que c'est interdit. Surtout pas, à mon avis, je vois mal comment ça pourrait être majoritaire, on va dire.
Le court terme, vous avez raison. Je ne dis pas effectivement que déislamisation à laquelle j'appelle de mes voeux, je ne dirais pas que je la verrai de mon vivant. Je pense qu'il est important de la poser comme un scénario souhaitable dans un premier temps.
Oui, bien entendu, mais
et alors, donc de faire tomber le tabou de la souhaitabilité, de la désirabilité d'une apostasie de masse, d'une sortie de la religion. Et prenez un pays comme l'Iran.
Oui.
L'Iran est un cas très intéressant. L'Iran est historiquement le premier pays qui succombe aux conquêtes musulmanes à partir des 7e siècle, puisque la Perse sassanide, qui était sortie épuisée de ses conflits avec Byzance, s'écroule comme un château de cartes après les expansions islamiques. Aujourd'hui, quand on regarde certaines études, certaines enquêtes sociologiques, on constate, en tout cas ces études-là suggèrent que l'Iran affiche des niveaux de désaffiliation religieuse très élevés au regard des standards de la région, et ceci alors que les Iraniens sont soumis à une dictature théocratique sanguinaire dans laquelle le simple fait d'être mal voilé peut vous valoir d'être assassiné. Et donc, je me dis très naïvement que si une société gouvernée par une théocratie aussi sanguinaire et tyrannique peut afficher des niveaux de désaffiliation religieuse à ce point stupéfiant, c'est-à-dire est quand même capable, que la société civile, malgré la chape de plomb, est capable de se poser des questions, de douter, de remettre en question un récit religieux de plus de 1000 ans. Alors, je me dis que dans les sociétés occidentales, nous n'avons aucune excuse pour ne pas exploiter les espaces de liberté existants pour diffuser ce discours critique que l'on pourrait qualifier de voltairien, afin d'exposer les musulmans à une vérité scientifique à laquelle ils ne sont pas exposés dans leurs cercles familiaux. Ce pourrait être le rôle de l'éducation nationale, par exemple, sans forcément faire de la théologie.
J'entends bien.
L'islam est au programme scolaire, je crois que c'est en cinquième qu'on apprend l'islam. Oui. Quand on regarde les manuels scolaires,
c'est un scandale.
C'est un scandale. On reprend complètement la vulgate musulmane en disant que Mahomet est né dans une Arabie polythéiste et qu'il a reçu donc une révélation de l'ange Gabriel au 7e siècle, ce que aucun historien sérieux ne soutient. Oui. Alors, il serait peut-être intéressant de commencer par introduire dans ces programmes des éléments issus de la tradition orientaliste qui permettraient au public, aussi bien musulman que non musulman, d'être exposé à des connaissances scientifiques qui leur permettraient de prendre une petite distance pour commencer avec leur religion. Et je pense aussi que cette démarche-là était institutionnalisée, et je pense que toutes les organisations publiques comme privées, religieuses ou laïques ont intérêt à se réapproprier ce combat pour le mener sur tous les fronts possibles, parce qu'il en va en réalité de l'avenir de nos sociétés libérales et de l'avenir de notre civilisation tout court.
Non, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, cette étude que vous citez, je crois qu'elle a été faite par deux universitaires néerlandais.
D'origine perse.
Comment ont-ils fait ? Ils sont allés discrètement interroger des Iraniens.
Me semble-t-il, si je ne fais pas d'erreur, sur le web, sur l'internet, pardon, des questionnaires anonymes, parce que la difficulté en fait à laquelle ces gens sont confrontés, c'est que lorsqu'on sonde publiquement les Iraniens, il y a un mécanisme de falsification des références, parce que vous pouvez pas dire en Iran que vous êtes arrêté, on n'a pas ça, sinon on vous tue. Et donc ils ont utilisé des canaux informels pour distribuer donc des questions. Un questionnaire, et à travers un échantillon représentatif, ils obtiennent des résultats assez intéressants, avec une proportion très élevée d'Iraniens qui se dit non religieuse, athée.
Je peux citer d'ailleurs, j'ai la page, j'ai un petit signé.
Et donc cette étude a été publiée dans la Fondapol, pour la société de la Fondapol.
Et donc voilà, 32% se reconnaissaient musulmans chiites, 22% sans appartenance, 9% comme athées, 7% comme spiritualistes, 6% comme agnostiques, au côté de groupes plus restreints. Je sais aussi d'ailleurs que le mazdéisme, le zoroastrisme, connaît une nouvelle vogue en Iran.
Oui, précisément, par fidélité à la tradition perçue comme indigène.
Ça permet justement d'aller chercher loin dans le passé, on va dire, une légitimité. Peut-être aussi qu'il y a une différence qu'il faut noter entre les pays musulmans, une théocratie comme l'Iran et la France. C'est qu'en France précisément, enfin en Iran, comme vous souffrez de cet islam en permanence, vous êtes peut-être plus amené à le détester. Qu'en France, où finalement ça va être vos racines culturelles, et donc vous allez au contraire peut-être le porter avec fierté, puisque vous n'en souffrez pas au quotidien. Alors certains en souffrent, il y a des jeunes filles qui sont excisées, mariées de force, il y a des forcées de porter le voile, etc. Donc il y a aussi des gens qui souffrent de l'islam en France, mais disons la réaction est peut-être plus forte dans un pays, mais vous avez raison de toute façon sur le fait que il faut qu'au moins l'éducation nationale ne boive pas les paroles et les
désirs. Je ne sais pas si la souffrance en elle-même est c'est une bonne question, hein, mais tous les pays musulmans souffrent en réalité de l'islam.
Bien sûr.
Donc si la souffrance était vraiment le moteur principal de l'apostasie des Iraniens, cette variable devrait s'exercer partout. Vous savez, malheureusement, Étienne de la Boétie disait la coutume est la première source de servitude volontaire. Donc, dans l'histoire, des traditions oppressives qui infligent des souffrances peuvent se maintenir dès lors que les individus y croient ou y adhèrent par conformisme social. Je pense simplement que les Iraniens ont été exposés, et d'ailleurs c'est aussi ce qu'explique l'étude que je cite, qu'il y a une diaspora iranienne en Occident qui est très sécularisé, qui reste en contact avec son pays d'origine, qui diffuse un contenu critique. Les Iraniens restés sur place ont accès, via les nouvelles technologies, à des canaux d'information et de communication qui donc brisent le monopole du régime. Ils sont exposés à un contenu. Et puis il y a aussi cette énigme qui mérite d'être creusée. C'est que les Iraniens sont parvenus à se garder une mémoire, un souvenir très vif du prestige de l'ancienne civilisation perse avant l'islam. Et donc l'Iran fait partie de ces exceptions à ce tableau que j'ai dressé au début de l'émission sur l'ignorance du passé pré-islamique. Oui. C'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, de ce qui s'est passé en Égypte et en Syrie après les conquêtes musulmanes où les langues indigènes se sont complètement effondrées en Égypte, donc le grec, le copte et autres, le persan, pour des raisons d'ailleurs que je ne... qui ne m'appartient pas d'expliquer parce que là, ça me dépasse, donc j'envoie ça aux spécialistes, c'est maintenu. Et donc tout ça a permis à l'Iran de sauvegarder le prestige d'une civilisation perse. Et donc les Iraniens savent qu'ils n'ont pas attendu l'islam pour être un important foyer de science et de culture et qu'ils méritent beaucoup mieux que l'islam. Et,
il y a une identité perse, de toute façon, qui est beaucoup d'Iraniens préfèrent ne pas se dire iraniens,
Juste iraniens et perses de manière interchangeable. En revanche, ils se disent pas, enfin beaucoup de perses ne se disent pas musulmans et considèrent finalement l'islam comme le fruit d'un colonialisme étranger, comme le fruit d'une invasion étrangère arabe. L'idéal serait que cette mentalité se répande dans la région et que les peuples arabes qui entourent la Perse se souviennent eux aussi qu'ils étaient autre chose avant l'arrivée de l'islam et des conquérants musulmans.
Bien sûr. Alors, message d'une auditrice. Bonjour messieurs, je suis française qui vit en France et aime sa France. Je suis chrétienne, qu'on salit souvent beaucoup. Je n'oublie pas que l'école de la sagesse de Bagdad a été faite grâce à Onain, un chrétien, et aux nombreux chrétiens demandés pour enseigner et fixer les populations nomades à la demande d'Al-Mamoun et d'Al-Mansour, comme l'école d'Edès, l'école de Kenchré, etc., etc. L'Espagne occupée pendant 8 siècles n'a pas été un moment heureux pour les populations non musulmanes. N'oubliez pas le pacte d'Omar appliqué aux populations non musulmanes. Du reste, les nouveaux convertis étaient limités car ne payaient plus le dhimmi que faisaient payer les musulmans. Merci messieurs.
Alors, ce qu'il faut rappeler en effet, c'est que les minorités non musulmanes, en tout cas les communautés non musulmanes, parce qu'elles ont longtemps été majoritaires en réalité, ont eu une influence décisive dans l'épanouissement des arts, des lettres et des sciences au sein de l'Empire islamique. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, moi je reviens sur ce qu'on appelle l'âge d'or islamique, ce qu'on appelle très improprement l'âge d'or islamique. D'une part parce que cette notion-là revient à attribuer à l'islam à tort les foyers de culture incontestables qui ont pu fleurir au sein des sociétés dominées par l'islam. Et par ailleurs, la notion d'âge d'or islamique, en effet, minore le rôle des non-musulmans dans l'épanouissement des arts, des lettres et des sciences en terre d'islam. On sait par exemple que ce sont principalement les chrétiens d'Orient qui ont été donc responsables de la transmission de la science grecque dans la langue arabe. Et la dimension confessionnelle ici est importante parce que les musulmans ayant toujours refusé, à quelques exceptions près, d'apprendre le grec dans les pays passés sous leur domination et où le grec était solidement implanté, comme en Égypte, comme en Syrie, comme dans certaines parties de la Mésopotamie, eh bien, ce sont donc les communautés non musulmanes qui ont été chargées d'enrichir la langue arabe et de faire de l'arabe la science, une langue de science et de culture. Et donc, en cela, effectivement, la notion d'âge d'or islamique relève de la falsification parce que on en vient à oublier que ces réalisations culturelles, scientifiques, qui font notamment la réputation et le prestige d'une dynastie comme les Abbassides, étaient des réalisations qui s'inscrivaient dans un cadre multiculturel et multiconfessionnel. Juifs, chrétiens, zoroastriens, païens ont tout autant contribué à l'épanouissement des arts et des lettres et des sciences que les musulmans. Et donc, il faut aussi rendre à César ce qui est à César.
Al-Khwarizmi est un grand savant, probablement à l'égal d'un Léonard de Vinci, etc. En même temps, il est difficile de lui attribuer la totalité de sa science, puisque beaucoup a été pillé aux Indiens, mais on ne sait pas quelle est la part. Finalement, Al-Khwarizmi qui a donné algorithme, d'ailleurs, et aussi algèbre, le titre d'un de ses ouvrages, d'autant qu'il y a eu, sur 800 ans, à peu près 400 millions d'Indiens qui ont été massacrés massacrés par, par les musulmans, hein, donc on dit bien 400 millions, hein, c'est-à-dire c'est pas 4 millions ni 40 millions, 400 millions, et mis en esclavage, et que beaucoup de ces idées, disons, qui ont été...
Je sais pas ces chiffres, moi, mais si vous avez une source, je prends.
Ah oui, bien sûr, oui, je crois que c'est... Mais alors c'est sur 800 ans, mais enfin ça fait quand même une moyenne de 1,5 million par an, donc c'est énorme, bref, et donc oui... mais je vous donnerai toutes ces sources, et si jamais elles ne sont pas bonnes, je le dirai dans la prochaine émission. Une autre auditrice nous dit: bonjour messieurs, je bois vos paroles, mais j'ai du mal à détester l'islam tel qu'il se manifeste sans détester ceux qui affichent dans la rue cette adhésion par leurs vêtements ou autres. Qu'en pensez-vous? C'est comme si on devait détester le fascisme, mais qu'on devait s'interdire de détester ceux qui s'habilleraient en squadristi dans la vie courante, idem pour le stalinisme. Question annexe, que pense votre invité de la finance islamique? Est-ce plus moral ou bien est-ce une imposture? Bien courtoisement et bravo pour le courage de votre invité.
Moi, je tiens la distinction entre le système de valeurs et les personnes, quelles que soient les idéologies. C'est-à-dire que bien sûr, pense que nous devons considérer que tous les êtres humains ont une égale dignité, mais qu'en revanche, ces êtres humains malheureusement peuvent professer des idéologies sanguinaires totalitaires, et qu'il est de notre devoir d'essayer de le montrer, de combattre ces idéologies-là, à la fois pour à des fins purement égoïstes pour nos sociétés, mais également à des fins altruistes. Et je ne pense pas que les deux s'opposent en l'occurrence. On ne déteste pas les Russes quand on déteste le communisme. Au contraire, je pense que c'est de faire un acte
bien
d'amour
sûr, au contraire, oui, bien sûr,
pour les Russes que de rejeter le communisme. Je pense qu'on ne déteste pas les Allemands quand on réprouve le nazisme. Je pense qu'on aime les Allemands quand on réprouve le nazisme, parce que c'est aussi leur épargner un régime sanguinaire qui a détruit certes l'Europe, mais qui a aussi été un drame pour l'Allemagne et pour les Juifs, évidemment, entre autres communautés.
Donc, oui, mais moi, vous avez tout à fait raison, et je veux dire, les jeunes Allemands qui étaient envoyés à Stalingrad, etc., enfin, je veux dire, le Hitler n'avait aucun respect pour leur vie.
Non.
Enfin, voilà, et donc... C'est
donc non, si non, donc je tiens quand même cette distinction, je pense encore une fois qu'il est de notre responsabilité, de notre devoir, d'être ferme sur nos valeurs sans sombrer dans la haine, dans une espèce de haine injustifiée, mais ferme sur nos valeurs. Ferme, ça veut dire en effet que l'islam est une religion. Ça revient à dire que l'islam est une religion qui sème la désolation partout où cette religion est majoritaire, est au pouvoir, que nous ne voulons pas cette religion, que nous voulons qu'elle recule le plus possible, que nous ne voulons pas qu'elle triomphe dans l'espace public, et qu'il faut aussi engager avec les musulmans un dialogue exigeant, pas ce dialogue... interreligieux, mielleux,
culpabiliser aussi beaucoup.
Oui, en train de culpabilité, cette espèce d'œcuménisme un petit peu naïf, qui consiste à mettre sous le tapis en fait toutes les questions qui fâchent. C'est ça aujourd'hui le dialogue religieux, c'est-à-dire on célèbre les prétendues richesses de la tradition musulmane en occultant toutes les questions qui fâchent, et en occultant le fait que toutes les prétendues richesses de l'islam ne sont absolument pas exclusives à l'islam, et que donc les vertus qu'on impute à l'islam, on peut aussi les retrouver sans l'islam. C'est comme d'ailleurs les foyers de sciences et de culture. Qu'il y ait eu des réalisations culturelles, scientifiques en terre d'islam, c'est incontestable, je ne le nie nullement. Mais de la même manière, si vous voulez, qu'il serait un petit peu ambitieux d'imputer le talent d'un Shostakovich à Staline, il me semble tout à fait faux d'attribuer le talent d'un Averroès, le talent d'un Avicenne, le talent d'un Ibn Khaldoun à Mahomet et au Coran. Et la question qu'on peut se poser, c'est pour un Ibn Khaldoun, pour un Avicenne, pour un Averroès que le hasard a placé en terre d'islam, combien d'autres Averroès, combien d'autres Ibn Khaldoun, combien d'autres Avicenne, combien d'Héloïse et d'Abélard, combien de Voltaire, combien de Marie Curie, combien de Léonard de Vinci ont-ils été méthodiquement assassinés sur les bancs de ces lieux d'abrutissement qu'on appelle les écoles coraniques.
Ça nous ramène aux statistiques dont vous parliez en début d'émission.
Exactement.
En disant, bien
et
sûr,
donc chaque prodige, chaque génie qui est né en terre d'islam nous commande en réalité de pleurer les 1000 autres génies qui auraient vu le jour, dont on nous a privés, qui ont été avortés en raison de cette religion tout à fait tyrannique. Et on peut dire la même chose là encore d'autres systèmes système politique.
Bien sûr,
le communisme, bien sûr, oui. Par exemple, personne ne va prétexter le talent d'un Sakharov, le talent, le fait que les Russes ont été les premiers à envoyer un satellite dans l'espace. Ouais. Personne ne va mettre ses prouesses incontestables au crédit du système soviétique. Car nul besoin d'être un grand soviétologue pour soutenir que si la Russie n'avait jamais déclenché la révolution d'octobre et si elle s'était dotée d'institutions beaucoup plus libérales et bourgeoises, entre guillemets, eh bien, elle aurait été encore beaucoup plus loin dans ses prouesses culturelles et artistiques. Et donc moi, j'applique à l'islam et aux sociétés musulmanes le même raisonnement.
Fort bien. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule « Le Libre Journal des économistes ». Le thème de l'émission du jour est « Les infortunes du monde musulman sont-elles inéluctables ?» Et je suis donc avec Fergan Aziari. Nous parlons de son livre « L'islam contre la modernité ». Notre auditrice posait la question de la finance islamique. La finance islamique, c'est juste une manière, finalement, de faire de la finance en respectant, en se compliquant terriblement la vie.
C'est tout à fait du bidon. C'est-à-dire qu'on va, quand on n'a pas le droit d'appliquer un taux d'intérêt en théorie, on va utiliser toutes sortes de subterfuges pour reproduire peu prou le même mécanisme. Mais non, tout ça, c'est pas très... et c'est d'ailleurs la preuve que le dieu des musulmans, entre guillemets, n'a pas compris l'intérêt du taux d'intérêt et donc la rémunération du temps, la tempérance, du risque.
Alors, ça a été aussi interdit par l'Église, mais bon, un jour l'Église s'est rendu compte que, enfin, il y avait plus malin que de passer par les juifs, c'était de soi-même appliquer des taux d'intérêt. Voilà.
Donc, de rémunérer le capital à sa juste valeur.
À sa juste valeur, c'est une chose dont nous parlons souvent dans cette émission. Pourquoi la France a-t-elle accepté autant d'immigrés sans condition, nous demande cet auditeur. Très vaste question, peut-être.
Oui, c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, il y a en effet de nombreux musulmans sur le sol français et européen. Et le défi auquel nous sommes confrontés, c'est que les courants d'opinion qui traversent le monde musulman et l'islam en France et en Europe fait qu'aujourd'hui, l'islam produit, hélas, les catégories sociologiques les plus réactionnaires, les plus autoritaires, les plus illibérales du spectre politique français. Et c'est là tout le paradoxe auquel nous sommes confrontés, c'est-à-dire que ça fait plus de 40 ans que toute objection dirigée contre l'islamisation de nos sociétés est systématiquement assimilée à une attitude dite d'extrême droite, entre guillemets, alors même que s'il y a une religion qui produit, entre guillemets, des attitudes d'extrême droite, c'est l'islam. Oui. Quelques chiffres pour vous en convaincre, si j'en crois les chiffres d'Hakim El-Karoui, plus d'un musulman sur deux en France juge que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population totale. Les musulmans sont aujourd'hui plus sensibles que la moyenne à des préjugés antisémites. Plus d'un musulman sur deux considère que les juifs ont trop de pouvoir dans la politique, l'économie et les médias contre un quart, un cinquième de la population. Ce sont les chiffres de la Fondapol. Les musulmans sont beaucoup plus sensibles que la moyenne à des préjugés homophobes. Ils sont beaucoup plus enclins que les non-musulmans à dire que les violences contre les homosexuels sont parfois justifiées et compréhensibles. Ils sont beaucoup plus réfractaires à l'idée de liberté de conscience et d'expression. On l'a vu avec l'affaire des caricatures. De nombreux sondages ont été publiés à l'époque qui montraient que les musulmans étaient beaucoup plus sensibles, en tout cas, à l'idée de, à la nécessité de poursuivre devant, donc à déférer devant les tribunaux les dessinateurs de Charlie Hebdo que les non-musulmans. Et on l'a vu aussi lors de l'affaire Mila, cette jeune adolescente qui a été déscolarisée de force en raison de ses critiques dirigées contre la religion musulmane. Là encore, les musulmans étaient beaucoup plus sceptiques quant à la licéité, la légitimité de la prise de parole de Mila et des critiques. Et donc, nous sommes confrontés à un défi très simple. C'est que la démocratie libérale et les idéaux républicains tels que les Européens les affectionnent sont le fruit d'un processus anthropologique auquel le monde musulman est largement resté étranger. Et donc, toute la question est de savoir si nous accepterons de laisser les parts de marché de cette religion augmenter, avec le risque de fragiliser petit à petit nos institutions, et sachant que la détérioration de la qualité de nos institutions sous l'effet de cette religion est déjà visible. En France, ça fait 20 ans qu'on a des rapports qui nous expliquent, par exemple, que les juifs ne peuvent plus être scolarisés n'importe où, en raison de la multiplication d'enclaves islamisées. C'est le rapport Aubin de 2004.
Quand les juifs sont tranquilles, en général, c'est que la liberté religieuse...
Donc, disons que depuis la Révolution française, on considère que le sort des minorités est un thermomètre assez fiable de la vitalité, de la santé d'une société. Or, la condition de certaines minorités montre effectivement que les indicateurs sont au rouge. De la même manière, Jean-Pierre Aubin a documenté le fait que dans les écoles, il y avait une autocensure massive du corps enseignant, c'est-à-dire des gens qui sont en première ligne pour transmettre les savoirs fondamentaux et les valeurs aussi officielles de la société française. De même, les journalistes de Charlie Hebdo doivent aujourd'hui travailler dans un lieu secret. En Angleterre, quelqu'un comme Salman Rushdie a été poussé à la porte, a dû s'exiler aux États-Unis parce qu'il ne pouvait plus circuler librement sans escorte policière suite à la menace, à la sentence de Khomeini. Et donc, on a des tas de signaux qui montre que nous sommes en Europe dans un processus de décivilisation, dans la mesure où des libertés qui étaient jusqu'à une époque récente considérées comme tout à fait acquises ne le sont plus, en raison de ce que le politologue Gilles Kepel a appelé le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire cette menace diffuse, difficilement perceptible, qui est entretenue par l'existence d'éléments radicaux qui veulent imposer la charia dans l'espace public. Et comme l'histoire est le fait des minorités agissantes, en réalité, il suffit d'une petite minorité radicalisée et déterminée pour faire vaciller nos institutions et soumettre nos institutions à une pression constante.
Alors, une auditrice nous dit « Bonjour messieurs, concernant la musique qui est restée monodique dans le monde arabe, je serais bien capable de vous siffloter un air, mis à part une chanson de Fairouz, Atini Ney Ouagani. Idem, la musique arabo-andalouse n'inspire pas autant que la musique espagnole et ne marque pas autant les esprits. Mais vous allez me dire que c'est affaire de goût. » Alors là, je crois que nous n'avons pas grand-chose à dire là-dessus. Un auditeur nous dit « Bonjour messieurs, là où croit le danger, croit le remède, comme dit Hölderlin. Je vois se multiplier les sites d'ex-musulmans comme Majid ou Kacha ou Jack Le Fou ou Ali Balal. C'est encourageant quand on sait qu'ils risquent leur peau. Une fois, j'avais entendu une explication de l'un d'eux pour faire comprendre l'intolérance et la violence des civilisations islamiques. C'est comme si un prof apprenait que 2 plus 2 font 5. Il devrait redoubler d'autoritarisme pour maintenir la discipline en classe, bien courtoisement. » D'accord. Et puis, encore un auditeur nous dit « Bonjour, monsieur Ferganaziari parle d'or et vient de proclamer à l'antenne une synthèse magistrale quant à l'incommensurable imposture de 14 siècles de l'hérésie mahométane. Bravo monsieur, quel courage, quelle brillante lucidité, connaissant parfaitement le sujet et pour cause, bien cordialement. » Voilà, bon, très bien. Passionnant. Alors, vous avez déjà parlé un petit peu des solutions que vous imaginiez. Est-ce que vous imaginez que c'est possible dans certains pays musulmans de remettre en cause... Alors, il y a une phrase très intéressante sur l'esclavage, dans votre livre, c'est une citation, je ne sais plus de qui, « Interdire ce que Dieu permet est une offense presque aussi grande que permettre ce que Dieu interdit. » Et pour dire que finalement, l'esclavage est consubstantiel du monde musulman, puisque Dieu ne l'interdit pas, c'est qu'il l'autorisait. Voilà.
Voire l'autorise, puisque le Coran parle et réglemente l'esclavage, et puis les récits hagiographiques relatifs à la vie de Mahomet le dépeignent volontiers comme un esclavagiste. Donc, dès lors que le bel exemple, voire le meilleur des hommes, pratique en effet cette institution, il est beaucoup plus difficile de la contester. Donc, la phrase que vous avez exhumée est celle de Bernard Lewis, et je la cite en effet dans le contexte du rappel des conditions dans lesquelles l'esclavage a reculé en terre d'islam. L'esclavage, faut-il le rappeler, est une institution, une infâme institution que toutes les cultures, toutes les sociétés ont évidemment pratiquée, sauf que toutes les cultures n'ont pas été capables de contester cette institution de leur propre initiative. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que là où le premier réquisitoire contre l'esclavage en terre chrétienne date du 4e siècle après Jésus-Christ sous la plume de Grégoire de Nice, père de l'Église. Il n'y a jamais eu en terre d'islam avant l'arrivée des Européens la moindre tentative abolitionniste.
Ça peut même se déduire des évangiles, non d'ailleurs il se trouve qu'ils n'ont pas été appliqués à la lettre, loin s'en faut, et qu'il a fallu que des théologiens, disons, les interprètent.
Bon, oui, puis, alors ne faites pas autrui ce que ça peut être en effet
par exemple,
une bonne base
si
pour
les uns les autres, pour le fait pour, de l'égalité des individus.
Tout à fait, et donc il n'y a jamais eu en terre d'islam l'équivalent de la pensée abolitionniste qui s'est développée en terre chrétienne, puis qui a été ensuite sécularisée par les Lumières. Il n'y a jamais eu en terre d'islam l'équivalent de la controverse de Valladolid qui, au XVIe siècle, met en scène des théologiens espagnols comme Bartolomé Las Casas et autres qui vont condamner les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques en rappelant la dignité, l'égale dignité des êtres humains, quels que soient leurs horizons ethniques, géographiques, culturels. Et Las Casas, contrairement à ce que j'ai pu parfois entendre, condamnait pas seulement l'esclavage des Amérindiens par ses compatriotes.
Parfois on dit que les Noirs d'Afrique n'étaient pas concernés.
Il incluait aussi les Africains dans son raisonnement. La fin de sa vie, il a aussi inclus les Africains, et c'était évidemment révolutionnaire à l'époque.
Personne
n'était allé jusqu'à, pas même en Afrique, puisque les Africains, évidemment, n'ont pas attendu l'arrivée des Européens et des Portugais au XVe siècle pour s'asservir mutuellement, ce que ces sociétés-là se gardent bien de rappeler. En témoigne la résolution des Nations Unies qui a été votée en mars dernier sur les traites négrières, qui qualifiait la traite négrière de pire crime contre l'humanité, donc une espèce de tentative tout à fait indécente de hiérarchiser l'horreur, comme si toutes les victimes n'étaient pas égales en dignité. Et par ailleurs, cette résolution faisait commencer les traites négrières au XVe siècle, excluant ainsi 7 siècles de traite négrière commencées, je le rappelle, à travers l'expansion islamique, puisque la traite négrière est une invention de l'islam, pas l'esclavage, parce que l'esclavage date de la nuit des temps, et les Africains n'ont pas attendu l'arrivée des musulmans pour s'asservir mutuellement. En revanche, la traite comme étant effectivement un vaste circuit spécialisé de commerce d'êtres humains sur de longues distances, ce circuit-là naît dans le sillage de l'expansion islamique en raison d'un mécanisme qui est très bien connu des historiens, c'est que la loi islamique interdisant d'asservir des hommes libres et des musulmans à l'intérieur de l'Empire islamique, la seule manière de se procurer des esclaves de manière licite, du moins en théorie, était donc d'aller les chercher aux frontières de l'islam. Donc l'Afrique a été pour les musulmans un vivier d'esclaves, de même que les côtes d'Europe occidentale, de même que la région du Caucase, de même que l'Inde et autres régions frontalières. Les Tartares de Crimée ont importé des centaines de milliers de Russes et d'Ukrainiens. Et donc, aux frontières de l'islam, il était en effet licite, au regard de la loi islamique, d'asservir les mécréants en raison de leur mécréance. Et là où effectivement l'abolition de l'esclavage en terre occidentale fut le fruit d'un processus interne et endogène, et il n'y a jamais eu de tels efforts endogènes dans le monde islamique, à tel point que le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout à la colonisation occidentale, ce qui est un tabou historiographique absolu.
Vous donnez 1929 pour l'Iran, 1912 pour le protectorat marocain, enfin je veux dire pour la fin, le dernier...
La fermeture des marchés d'esclaves publics au Maroc, par les Français qui ont aboli, fermé ces marchés d'esclaves. De même, en Algérie, ce sont les Français qui vont forcer les Algériens à renoncer au commerce de nègres, entre guillemets, tel qu'on l'appelait à l'époque. Ce sont les Britanniques qui vont faire pression sur l'Empire ottoman afin que celui-ci renonce progressivement aux différentes traites. Ce sont les Italiens qui vont intervenir en Libye, ce sont les Néerlandais qui vont intervenir en Indonésie, ce sont les Britanniques encore qui vont aller jusqu'à Zanzibar, les Français qui vont l'abolir aux Comores, etc., etc. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autocritique dans le monde musulman. C'est-à-dire que les musulmans ne cherchent pas beaucoup à comprendre pourquoi ils ont été les derniers à abolir l'esclavage sous pression étrangère. Un indice assez révélateur, me semble-t-il, de cette atrophie mémorielle, c'est que là où on a l'habitude en France et en Europe d'avoir des monuments qui commémorent l'abolition de l'esclavage. Ouais. Il n'existe rien de tel dans les pays musulmans.
Et je rappelle aussi que c'est le 3 juillet 1315 que Louis le Hutin, pendant son court règne, donc, a fait passer l'édit du 3 juillet 1315 dans lequel il dit « Le sol de France a franchi l'esclave qui le touche ». Et il dit aussi « Selon le droit de nature, chacun doit naître franc ». Voilà, c'est un très beau texte alors qu'il n'a pas été, enfin, qui a été appliqué rapidement parce que les esclaves ont eu le droit de s'affranchir immédiatement, mais bien évidemment, il y a eu de nombreuses péripéties.
De nombreux reculs après. L'histoire n'est jamais linéaire.
Et il y a encore beaucoup de prostituées en Europe qu'on pourrait qualifier d'esclaves. Oui. Alors donc, rebonjour messieurs, il semblerait, nous dit cette auditrice, que le bey de Tunis vers 1840 est quelqu'un qui voulut abolir l'esclavage. À vérifier toutefois.
Alors,
excellente émission.
C'est un
très court.
Très bel exemple. Oui, en fait, oui. Le bey de Tunis l'a fait sous pression tout le monde britannique et aussi parce qu'il avait peur des ingérences européennes. Donc il a été en effet très précoce au regard des standards musulmans, mais c'était là encore dans un contexte de pression coloniale et impériale.
Merci, parfait. Vous êtes très cultivé, c'est un bonheur. Une autre auditrice nous dit « J'ai oublié de remercier votre invité admirable que j'ai beaucoup de plaisir à écouter. Merci pour votre émission. Je voulais rajouter que les manipulations pour prouver que telle chose est formidable est souvent due à un anachronisme manipulateur, oubliant à dessein de contextualiser tel ou tel événement passé. La manipulation due aux méconnaissances semble bien marcher sur nos cerveaux incultes. Je ne sais si je suis bien clair, excusez-moi. Merci, merci. Très belle émission. » Merci, chère auditrice. Et puis, un auditeur nous dit enfin, quel est le livre qui permet d'avoir un point de vue historique sur la naissance de l'islam ? Alors, j'ai envie de lui répondre. Déjà, l'islam contre la modernité, Virgil Naziari aux presses de la Cité.
Il n'y a pas que mon livre, évidemment, mais il y a beaucoup de sources et de bibliographies vers lesquelles je renvoie, donc pour ceux qui voudraient approfondir tel ou tel aspect du problème.
D'accord, oui, fort bien. Voilà. Donc oui. Alors, ben, est-ce que la question, c'est est-ce qu'il serait possible d'imaginer des pays aujourd'hui musulmans avec liberté religieuse, droit d'apostasie, fin de l'infériorité féminine, de la dimitude, une instruction ouverte, toutes ces choses-là, ça semble très difficile.
Sur le papier, tout est possible. En pratique, c'est difficile parce qu'encore une fois, les sources musulmanes étant ce qu'elles sont, toute tentative de libéraliser les sociétés musulmanes sans remettre en question au préalable la validité des sources islamiques, pour moi, condamne les musulmans à des dissonances cognitives insolubles. Alors évidemment, qu'on peut être tout à fait musulman ne pas appliquer à la lettre les préceptes de l'islam. On en connaît tous dans notre entourage.
C'était très net, je fais une brève incise, avant 1979, c'est-à-dire j'ai fréquenté beaucoup de musulmans dans ma jeunesse et je sais que il y a quand même une rupture avec l'arrivée de l'ayatollah Khomeini en Iran. Et c'est là qu'il a commencé à y avoir des sentiments revanchards, etc., dans le monde musulman, qui était beaucoup plus éteint avant. Mais enfin, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, parfois, hein, c'est que l'islam est cruel quand il est fort, et qu'il est...
Oui, c'est-à-dire qu'on sortait quand même d'une hégémonie occidentale, et donc la période coloniale occidentale a parfois donné l'impression d'un dépassement de l'islam, mais je pense que c'est un prisme déformant parce qu'on se contente généralement d'analyser la sociologie d'une petite élite urbaine des sociétés orientales qui étaient parfois fascinées par la modernité occidentale, mais cette fascination était restée quand même assez superficielle, ne remettait pas en cause les références religieuses de la masse du peuple, et surtout quand on compare avec d'autres aires culturelles qui ont été elles aussi confrontées à la domination occidentale, je pense à l'Inde, je pense la Chine qui n'a pas été colonisée proprement dite, mais qui a quand même été sous domination, en tout cas sous tutelle, avec une influence européenne très forte, le Japon qui a aussi été confronté à l'hégémonie américaine, on constate malheureusement que l'islam, que les sociétés musulmanes, de tous les indigènes juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, animistes qui ont été confrontés à l'hégémonie occidentale, les musulmans sont restés les plus fermés aux idées nouvelles, n'ont pas su profiter des apports de la modernité occidentale comme ils auraient pu le faire. Et ceci explique malheureusement un état des lieux assez déplorable aujourd'hui.
Alors, je remercie tous nos auditeurs. Merci pour vos nombreuses questions et commentaires. Merci à Fergan Aziari, dont le livre « L'islam contre la modernité » était le sujet principal de notre émission d'aujourd'hui. Je remercie Benoît à la réalisation. Je remercie Claudia, tout le personnel de Radio Courtoisie. Je vous donne rendez-vous le 10 juin pour une émission sur l'Arménie avec François Devedjian. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le libre journal des économistes créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 13 mai 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.